Pourquoi je me suis intéressée à Augustine? Le tour de la France par deux enfants, je l'avais étudié en classe. Ça peut paraître curieux, mais dans mon école primaire de province, bien sûr, ce n'était pas au programme, mais nous avons fait des lectures. Et je ne sais pas non plus pourquoi, mais ces petits dessins, ces petites vignettes m'avaient impressionnée. Pourtant, c'était tout petit, hein, peut-être justement parce que c'était si petit et que c'était du niveau des enfants au niveau taille. Alors, pourquoi je me suis intéressée à Augustine? D'abord parce que j'aime bien ressusciter des femmes qui ont marqué l'histoire, des femmes qui ont eu des destins extraordinaires. Il faut qu'elle soit sympathique, faut qu'elle me plaise. Quand j'ai vu effectivement que G. Bruneau, c'était une femme, Augustine Tuilerie, on dit aussi Augustine Fouillé, puisqu'elle a épousé Alfred Fouillé, le philosophe Alfred Fouillé, à un moment donné de sa vie. Donc j'ai commencé à regarder et puis j'ai vu qu'elle avait eu une vie extrêmement romanesque, que ça commence très tôt. Ça commence dès son mariage. Alors là, ça m'a intéressée de plus en plus. Alors je me suis d'abord concentrée sur le tour de la France par deux enfants. J'ai essayé de voir un peu son œuvre. Alors je suis tombée dans mes recherches sur l'article qu'avait fait Jacques et Mona Ozouf dans les lieux de mémoire sous la direction de Pierre Nora. Et ce tour de la France par deux enfants, c'était d'après eux le petit livre rouge de la République. Il y avait en bas de page des annotations qui renvoyaient à un certain monsieur Sabatier-Velleru. Sabatier, Robert Sabatier-Velleru, qui se faisait appeler Velleru, c'était l'auteur des Allumettes suédoises. Et il s'était intéressé, lui, à Alfred Fouillé et Jean-Marie Guyot. Alors, Alfred Fouillé, cousin germain de mon Augustine et qui deviendra son mari, et Jean-Marie Guyot, le fils d'Augustine. Il avait fait toute une étude sur ces deux philosophes, Alfred Fouillé et Jean-Marie Guyot, sur la Riviera. Donc ça, c'était dans le Nice historique de 1968. J'ai pu trouver ce Nice historique. Et puis là, il y avait aussi des petites notes en bas de page qui rapportait une certaine correspondance. J'avais déjà commencé à écrire sur Augustine en me basant sur les livres, sur Alfred Fouillé, mais là j'étais obligée de recommencer tout à zéro parce qu'il fallait d'abord que je trouve cette fameuse correspondance. Je pensais bien que c'était dans le sud de la France parce que Nice, Menton, ça pouvait être par là. Et un jour, il y a le conservateur de la bibliothèque à Nice qui m'a écrit en disant: oui, c'est nous qui avons les archives, c'est nous qui avons le fonds Sabatier-Velleru. Il n'a pas été numérisé. Voilà, vous pouvez venir à Nice en prendre connaissance. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était très émouvant de voir cette correspondance, de voir l'écriture et d'Alfred Fouillé et d'Augustine Tuilerie, de découvrir leur vie très intime. Là, j'ai pu vraiment retracer leur parcours. Alfred Fouillé, il écrivait à son grand ami Pierre Fonsin. Pierre Fonsin, qui deviendra un grand géographe. Pierre Fonsin, qu'il avait connu en classe et qui était le fils de son proviseur. Donc, il écrit à Pierre Fonsin, qui est un tout petit peu plus jeune que lui, et Augustine écrira, elle, à Marguerite Fonsin, la sœur de Pierre Fonsin. Augustine est née en 1833. Ce sont des correspondances qui débutent vers 1857-58. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en 1860, Alfred Fouillé va faire une confession à son ami Pierre Fonsin, en lui demandant surtout de bien détruire cette lettre, de la brûler après l'avoir lue. Pierre Fonsin ne fera pas. Donc là, Alfred Fouillé raconte vraiment sa vie intime, toutes les misères qu'ils ont pu avoir, Augustine et lui. Alors, Augustine Tuilerie est la cousine germaine d'Alfred Fouillé. Donc, Augustine Tuilerie naît le 31 juillet 1833 à Laval. elle va connaître une enfance très paisible, très agréable. C'est une enfant très intelligente, très joyeuse. Elle va aussi voir très souvent son cousin Germain, qui a 50 mois qu'elle. Ils ont des goûts communs. Lui, il est extrêmement brillant, extrêmement intelligent, très précoce. Ils font des vers ensemble, ils se promènent dans la campagne, enfin tout est merveilleux. Elle a un frère aussi, Augustine, Louis, qui s'entend très bien avec Alfred. Une enfance idyllique jusqu'à un certain point, puisque le père d'Augustine, qui est un fabricant de toile, va avoir de gros soucis dans son commerce, surtout à partir des événements 1848. Il va s'investir, il va donner de l'argent à ses ouvriers, il ne va pas les licencier, il va. Et à partir de là, bien effectivement, il va commencer à avoir des soucis dans son commerce. Donc ça, c'est la première chose qui va décider du sort de cette pauvre Augustine, parce que ses parents vont décider de la marier, en se disant que peut-être le futur mari qu'ils choisissent, plus âgé qu'Augustine, qui a 16 ans de plus, mais qui est lui marchand de toile et qui a beaucoup d'argent, ce dernier promet également d'aider les parents d'Augustine dans leur négoce. Donc elle va se laisser marier. Jean Guyot, il était très violent, très jaloux, et il a essayé de la tuer plusieurs fois. Il y a même une fois, il essaye de la pendre, mais la branche casse. Il est complètement fou. Par exemple, quand elle se penche à la fenêtre et qu'elle ferme les persiennes, il imagine qu'elle fait des signaux de l'autre côté de la Mayenne, un prétendant quelconque. Enfin bon, il est fou. Elle a un enfant, le petit Jean-Marie Guyot, qui naît, et malgré cela, eh bien, la vie continue à être épouvantable. Il n'y a pas d'autre solution que de se séparer. Donc, vous voyez, sa vie déjà commence d'une façon assez dramatique. C'est très romanesque parce que elle est obligée de quitter donc ce mari. Il y a un procès. Vous imaginez dans la bonne société de Laval ce que ça peut donner. Elle a 22 ans, un petit enfant, obligée de vivre séparée de corps et sans pouvoir se remarier. Et bien sûr, Jean Guyot n'a pas aidé son père. La faillite est consommée. Donc ça, c'est déjà le premier drame d'Augustine. Or, Augustine est amoureuse de son cousin Germain, Alfred Fouillé. Un amour qui est partagé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de passer les examens le plus vite possible pour devenir d'abord répétiteur, pour un jour devenir professeur. Il est extrêmement intelligent et il fournit un travail colossal. Voilà, donc ça c'est pour le début de l'histoire d'Augustine, ça sa vie privée. Alors quand j'ai découvert tout ça, j'ai découvert une femme extrêmement courageuse. À travers les lignes, ensuite j'ai vu ce qu'a été sa vie, comme elle s'est battue tout le temps pour travailler, pour apprendre, pour transmettre le savoir. D'abord à son fils, Jean-Marie. Il va devenir un philosophe très connu à la fin du 19e siècle. On l'appelle le Nietzsche français. Alors bien sûr, il était à bonne école. Il y avait Alfred Fouillé qui va devenir d'abord un philosophe très en vue à la fin du 19e siècle. Alfred Fouillé est quand même un personnage hors du commun. Il a préparé l'agrégation tout seul. Il va être le premier devant tous les autres qui ont suivi des cours. Il va gagner des prix, puis écrire énormément d'articles et puis des ouvrages qui seront très en vogue à la fin du 19e siècle. Donc Augustine et Alfred vont vivre une vie, puisqu'elle est condamnée à rester en fait vieille fille à cette époque-là, en attendant la loi Naquet qui arrivera bien plus tard, eh bien ils vont décider de vivre ensemble avec Jean-Marie et elle va se faire passer pour la sœur d'Alfred. Donc Alfred Fouillé et sa sœur, donc Augustine Fouillé. Quand elle va écrire son premier ouvrage, elle ne pourra pas signer ni du nom d'Augustine Guyot. Si elle avait signé Augustine Tuileries, tout le monde aurait fait le rapprochement entre Alfred Fouillé et les Tuileries. Tout se passera bien, tout le monde croira toujours que c'est sa sœur qui est venue tenir son ménage. Lui, en bon oncle, il élève son neveu, Alors tout va bien, mais c'est là justement dans cette confession d'Alfred que j'ai trouvé qu'ils ont eu un enfant, une petite Émilie, qui est morte à l'âge de 18 mois. Alors dans les lettres, il ne donnait pas le nom de cette petite fille. Il parlait d'un ange envolé. Je savais où elle était décédée. Elle était décédée à Dole. Comment elle s'appelait, je ne savais pas. Donc j'ai cherché sous le nom de Tuileries, Fouillé, Guyot. Je n'ai rien trouvé. Mais il y avait une Augustine Guyon. Émilie Augustine Guyon. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, Alfred, qui était pourtant si droit, si honnête, si scrupuleux de la morale, pour protéger Augustine, il avait falsifié l'état civil et il avait donc déclaré cette petite fille sous le nom de Guyon, changeant juste une lettre, dont la mère était Augustine Fouillé. Il avait donc fait comme si Augustine était sa sœur. Mais bon, de toute façon, c'est des choses qui n'ont pas servi puisque cette petite fille est décédée après. Mais je me disais que plus tard, si elle avait vécu, ça aurait peut-être été compliqué pour son état civil. Déjà, ce drame-là restera toujours une blessure très profonde tout au long de sa vie. Mais Augustine a un caractère très vaillant. Elle pense toujours à l'avenir. Elle a toujours des ambitions pour les autres. Elle va se raccrocher à son fils. Alfred, tous les trois, ils forment un trio inséparable. Et elle va trouver quelque chose pour sortir de cette neurasthénie qui la guettait. Et elle va d'abord écrire des romans. Elle écrivait des poèmes quand elle était plus jeune, elle avait écrit des petites nouvelles. Et là, elle va écrire un roman parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. Malgré tout, Alfred, il gagne pas énormément d'argent. Il va être muté dans différents endroits, Louhans, Dole, Auxerre, Montpellier, enfin, elle va faire le tour de la France un petit peu avec Alfred. Il faut faire vivre toute cette petite famille. Cette petite famille, plus les parents d'Augustine, qui malgré tout vivent à Paris, vous vous rendez compte du déclassement. Il avait une entreprise assez connue. Et là, il va se trouver, le père d'Augustine, obligé de travailler dans une auberge. Il est caviste dans une auberge. Et la mère d'Augustine, elle, tient la caisse. Mais elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc Augustine a l'idée d'écrire des romans. Avant d'écrire son premier manuel, elle va commencer par écrire des romans. Alfred va se donner beaucoup de mal pour faire éditer, faire publier les ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, malheureusement. Il y a un roman qui s'appelait Jeanne Fontan. Eh bien, ça devait être un roman d'amour, vraisemblablement. Alors, si on s'en préfère à Alfred, c'était magnifique. Elle aurait presque pu donner des cours à Victor Hugo, tellement c'était beau. Elle va pas réussir à se faire éditer et tout ce qu'elle a écrit a été détruit à un moment donné, alors on ne sait pas par qui. Un jour, elle va se rendre compte qu'après tout, il y a je ne sais plus qui, grâce à ses petits manuels scolaires, a réussi à avoir une rente annuelle bien conséquente. Et il lui vient à l'esprit d'écrire un livre. Donc ça, nous sommes avant la guerre de 70. Car son premier opus, ça va être Francinet. Alors Francinet, c'est un livre de lecture courante, morale et instruction civique, très complet. Quelle documentation pouvait-elle avoir? Alors ça, dans les lettres, je ne trouve pas. Quand on lit ces lettres, on a l'impression Augustine a tout un tas de petits soucis domestiques, faire des confitures, tenir bien son ménage, faire le jardinage, etc. Et elle raconte tout ça d'ailleurs d'une façon toujours très optimiste, très souriante, mais elle écrit aussi. Elle en parle très peu à Marguerite Foncin. Elle lui dit simplement qu'elle a commencé un modeste petit ouvrage, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je pense qu'elle est aidée par Alfred et Jean-Marie un peu plus tard, mais aussi par Pierre Foncin pour tout ce qui est géographie. Pierre Foncin doit sûrement lui envoyer ou lui donner quelques conseils. Augustine et Alfred évoluent au fil du temps, puisque Alfred va devenir professeur de philosophie après à Bordeaux, etc. Ils vont évoluer dans un milieu très intellectuel. Elle partage toutes les conversations Augustine et elle apprend beaucoup de choses. Et elle prend énormément de plaisir, comme elle le dit, elle dit même quelquefois qu'elle a honte tellement elle prend du plaisir à écouter tous ces philosophes parler entre eux. Alors elle va donc écrire ce Francinet. Alors bien sûr, il faut sous quel nom va-t-elle signer? Alors ils réfléchissent un petit peu, puis ils choisissent G. Bruno. G. Bruno, ça peut évoquer Giordano Bruno, donc cet hérétique brûlé à cause de ses idées, etc. Mais G, ça peut être aussi Gérard, Gustave, Georges. C'est monsieur tout le monde, c'est un monsieur. Et les éditions Belin croiront très longtemps que G. Bruno, c'est un monsieur, monsieur Bruno, puisque c'est Alfred qui ira négocier les droits chez Belin. Et bien ce petit Francinet, livre de lecture courante, va avoir un très grand succès et va même être récompensé par un prix de l'Académie. Donc déjà, ce petit livre donne une idée de ce qu'elle pourra faire après dans le Tour de la France. Mais là, les enfants ne voyagent pas. Francinet est simplement un enfant qui va être en apprentissage et qui va apprendre aussi la lecture. À travers tout l'enseignement qu'elle donne dans toutes ses pages, de faire que le jeune enfant, le jeune écolier, s'assimile en fait à Francinet et aux autres petits-enfants qui sont dans le livre. Donc là, c'est avant la guerre de 70. Alors déjà, elle va gagner pas mal d'argent avec Francinet, parce que ça marche très très bien, c'est réédité, édité, réédité. Quelques années plus tard, donc après ce traumatisme de la guerre de 70, Augustine va cette fois réfléchir à un livre qui a vraiment un but patriotique. Elle partage les idées, bien sûr, d'Alfred, qui est un républicain dans l'âme. Il n'aimait pas Napoléon III, l'écrit qui se réjouit de l'avènement de la République. Donc, elle va écrire cet opus, Le Tour de la France par deux enfants, qui va devenir un best-seller. Elle a vraiment ce génie de se mettre à la portée des enfants. Les deux petits héros, donc Julien et André, les enfants vont vraiment suivre leurs aventures et apprendre l'histoire, la géographie, l'hygiène, la morale surtout, parce qu'à chaque fois, il y a une phrase de morale. C'est très important pour Augustine, qui est si droite et qui a le sens du devoir. D'ailleurs, Alfred dira que Augustine a le sens du devoir poussé jusqu'au sacrifice. Il y a d'abord le départ de ces deux enfants de Falsbourg. Par un épais brouillard du mois de septembre, deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Falsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Et donc cet ouvrage vise non seulement à enseigner l'histoire de France, le français, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de régions où on parle patois, mais également unifier tout ce peuple français et lui donner l'amour de la patrie, tout en lui inculquant des notions absolument indispensables, des vertus, des notions vertueuses de morale, d'entraide. Cet ouvrage va comporter plus de 200 vignettes d'illustrations. C'est d'abord un certain Perrault qui va illustrer. Alors Perrault, on ne sait pas, moi j'ai essayé de me documenter sur Perrault, je n'ai pas trouvé grand-chose, sauf qu'il utilisait une méthode, le gilotage, qui avait été inventé par un certain monsieur Gilot. Alors Perrault, on le trouve jusqu'à la fin du 19e, et puis après, dans les autres versions plus récentes, ça sera un certain Descheur qui va prendre le... Sans doute que Perrault est mort entre-temps, mais je n'ai rien trouvé sur ce Perrault. Si ça se trouve, c'était une femme, après tout. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, ces vignettes qui reproduisent la vie ou les personnages ou des paysages sont restées gravées dans la mémoire de beaucoup d'enfants. Parce que ce livre, qui a connu un succès phénoménal, a formé trois générations d'écoliers. Donc, pris et repris.
Moi, je connais une personne relativement jeune, qui n'a pas 60 ans,
et oui.
qui, dans le cadre de la classe du CM1, a eu ce...
Vous voyez, donc c'est quand même extraordinaire ce qu'elle a fait, Augustine. Et j'avais oublié quand même de mentionner quelque chose que j'ai découvert... plus tard, c'est qu'elle avait aussi écrit, alors ça date 1894, mais je pense qu'elle l'avait écrit beaucoup plus tôt, un premier livre de lecture et d'instruction pour l'enfant, écrit en gros caractères, et elle commence par Dieu. Parce que si Alfred s'est éloigné de la religion, Augustine est toujours restée malgré tout très croyante, donc Dieu. Alors ça commence, « Enfant, quand vous rentrez le soir à la maison, vous dites à votre mère, j'ai faim, j'ai froid, je suis là. Votre mère s'empresse de vous donner ce qu'il vous faut. Et vous songez en votre cœur qu'il est doux d'avoir une mère. Enfant, il y a quelqu'un de meilleur encore que votre mère, c'est celui qui vous a donné cette bonne mère. » et qui a mis en son âme tant de tendresse. Bon, c'est tout à fait typique de ce que pensait Augustine. Donc, dans les années 90, elle va s'atteler aux enfants de Marcel. Merci bien. Alors, les enfants de Marcel, dont son petit-fils dira plus tard que c'est en lisant les enfants de Marcel qu'il a eu envie de servir la France. Parce que si le Tour de la France n'est pas du tout revanchard, belliqueux, etc., les enfants de Marcel sont déjà un petit peu plus dans l'esprit de l'époque, donnent déjà l'idée, un désir peut-être de revanche. Alors ensuite, beaucoup plus tard, elle écrira « Le Tour de l'Europe pendant la guerre ». C'est en 1916. Alfred n'est plus là, il est mort en 1912. Il y a encore son petit-fils Augustin, mais qui mourra l'année suivante. Et c'est toute seule, à 83 ans, qu'elle va commencer à écrire pour les petits-enfants de France. Voilà. Il nous a paru que la gravité de l'heure présente crée une obligation nouvelle envers les enfants de nos écoles. Pas un Français ne doit ignorer les causes de la guerre barbare que nous subissons. Pas un Français ne doit les oublier. Toujours... ce désir d'apporter la connaissance, ce désir d'être utile à la patrie, aux autres. C'est pour ça que Augustine, je l'ai trouvée extrêmement attachante et que j'ai aimé raconter sa vie, même si sa vie, effectivement, est assez dramatique. Il y a des moments très drôles aussi. Elle profitait de chaque instant, sachant que la mort rôdait toujours. Alfred Fouillet et Ftizik aussi. Son fils Jean-Marie Guyot mourra à 33 ans de la phtisie. Donc elle profite des moments où ils sont tous ensemble pour faire de la musique, pour chanter, pour lire, pour échanger des idées, pour philosopher. Et ils ont de très bons amis, donc je vous ai déjà parlé de Pierre Foncin. Donc Pierre Foncin épousera une certaine Anna. Et ils auront ensemble une petite Antoinette. Ils vont vivre quelques mois tout près de la famille Fouillet à Bordeaux. Je pense que les années qu'elle a passées à Bordeaux étaient vraiment des années de grand bonheur. Antoinette passait souvent au bout du jardin, venait la voir et puis elle jouait, même si Jean-Marie était plus âgé, il aimait bien jouer avec la petite Antoinette, il courait un petit peu dans le jardin. C'était un moment de repos parce que ces gens-là n'arrêtaient pas de travailler. Il leur fallait des moments de repos qu'elle imposait pour pouvoir continuer à bien travailler. Elle adorait cette petite Antoinette. Elle devait voir en elle la petite fille qu'elle aurait, si sa petite fille avait vécu. Et cette petite Antoinette, extrêmement intelligente, elle étudie. Alors elle a étudié son fils, elle a étudié les réactions de son fils, elle étudie les réactions d'Antoinette. Parce que comme ça, ça lui permet de bien saisir la psychologie des enfants. Donc elle travaille tout le temps, mais... je peux aussi savoir un petit peu ce qu'était sa vie toute simple. Alors justement, je vais vous lire quelques petits passages de lettres à Marguerite Foncin, qui, elle, n'avait pas une bonne santé, qui avait beaucoup de mal à marcher, qui était clouée souvent dans sa chambre, sur son fauteuil. Voilà, je vais vous lire un petit peu pour vous montrer le ton prime sautier d'Augustine. C'est une lettre qui est datée du 2 décembre 1866. Donc, Augustine vit à Bordeaux à ce moment-là. Alors, donc, elle lui dit « Bon gré, mal gré, il faut me suivre et venir courir Bordeaux avec moi. Ouvrez vos grands yeux étonnés à présent. Nous arrivons, voici le port. Quelle forêt de mâts! Essayez de compter, si vous le pouvez, ces pavillons de tous les pays qui s'entrecroisent fraternellement. C'est impossible. Que la Garonne est magnifique. Voyez quelle ceinture verdoyante lui font sur l'autre rive cette masse de grands arbres. Et puis, quelle animation! Quelle gaieté autour de nous! Les jambes se remuent malgré soi, on court comme tout le monde. Écoutez les matelots, vous les entendez répéter que depuis longtemps, le port n'a été aussi complètement envahi de bâtiments de toutes sortes. Quoique ce soit vrai, rabattons néanmoins de moitié sur tout ce que l'on vous dira. C'est une bonne habitude à prendre au milieu d'une population de méridionaux doublés de Gascons. Nous avons quitté le port. Nous remontons le cours de l'intendance. Voici des magasins splendides. Mais pourquoi ne regardez-vous que l'étalage? Lisez donc les enseignes, c'est le plus curieux. À la source des cravates, à la source des rubans, à la source des crinolines. Que de sources, bon Dieu! Vous commencez à rire. Bah, ce n'est rien. Voici bien d'autres choses. Le soleil des cravates. Ce soleil me laisse un regret vrai. Il manque à côté de lui la lune des crinolines. Heureusement, Bordeaux est vaste. Je nourris l'espoir que nous la rencontrerons un jour ou l'autre. En attendant, observez, je vous prie, que nous ne trouvons pas un seul magasin surmonté de ce modeste écriteau « épicerie ». Fi donc, l'épicerie, quelle vulgarité! Ici, le plus mince marchand de sel s'intitule « négociant en doré colonial ». Ah, la bonne heure, voilà qui sonne bien. Alors, donc, vous allez découvrir sa maison. Mais assez ri comme cela sur l'emphase bordelaise. Les Bordelais ont du bon, je vous le montrerai plus tard. Gagnons la rue de Pessac et admirez avec moi toutes ces petites maisons à un étage seulement, avec un jardin derrière. N'est-ce pas avoir fait de Bordeaux l'une des villes les plus réjouissantes du monde que d'avoir doté d'un jardin les trois quarts de ces maisons? Puis voyez comme l'on entend ses aises ici, rien qu'avant d'entrer. On devine cela à la porte. Nous voici arrivés au 88. C'est là où il s'habille. Regardez, voici l'ouverture pour la boîte aux lettres qui est en devant. En voici une autre pour les journaux. Nous avons sonnette et marteau. Le marteau annonce le facteur. Le fil de fer de la sonnerie est garanti par le ciment. On se méfie de la malice des gamins. Mais entrons vite. Le corridor est devant nous. À gauche, au milieu, c'est la porte du salon. Etc. Après, elle fait toute la description. Donc, j'avais pas de mal à décrire son environnement, puisque tout était dans ses lettres. Elle écrit ensuite en 1882 à Marguerite maintenant, elles sont dans le Midi, parce que Alfred et Jean-Marie, comme je vous disais, étaient phtisiques et qu'il leur fallait le soleil. Donc ils se consacreront à leurs études et à leurs travaux. Mais maintenant qu'Augustine a accumulé une petite fortune qui continue chaque année puisqu'elle vend beaucoup, eh bien, ils vont pouvoir se chercher une maison dans le Midi. Elle fera construire une magnifique villa qui s'appellera la Villa Fouillée à Menton. Mais en attendant, avant de faire construire cette belle villa, ils vont aller d'endroit dans le Midi. Là, par exemple, ils sont hébergés à la Villa Sainte-Anne. Alors, n'oubliez pas tous, je vous en prie, que la Villa Sainte-Anne est grande, qu'il y a trois pièces absolument libres où l'on peut s'installer sans qu'il y ait pour nous un mouvement à faire, et qu'une quatrième pièce peut être libre en une demi-heure. Vous voyez donc que vous ferez quatre heureux, complètement heureux, quand vous vous déciderez les uns et les autres à visiter Menton. J'avais trouvé qu'elle, quand elle a écrit le livre Francinet, donc son premier opus, elle envoyait à Joseph Foncin et à Pierre Foncin, elle envoyait son travail pour qu'il lui donne quelques avis sur son travail. Elle tient compte des avis, mais elle a aussi son mot à dire. Alors, pour ce qui est de Francinet, à la fin, elle avait presque fini quand elle est tombée malade. Et ce sont Alfred et Jean-Marie qui ont terminé l'ouvrage. Elle met d'ailleurs quel chapitre. C'était toute une communion d'esprit tellement forte entre eux. C'est pour ça que quand il y a eu d'abord eu la disparition de Jean-Marie, Heureusement, Jean-Marie laissait un petit-fils appelé Augustin et qui va devenir vraiment la prunelle des yeux de toute la famille. C'est lui qui va aider à surmonter cette perte inestimable. Un enfant extrêmement brillant. Augustine, à un moment donné aussi, le voyant qu'il est tout seul, ce pauvre Augustin, fera venir un neveu. Tous les deux vont bénéficier de l'enseignement d'Alfred Fouillé. Et tous les deux, malheureusement, donc disparaîtront à la guerre de 14. Alors, il y a des moments, je disais, des moments quand même très drôles, et ça, c'est relaté dans beaucoup de différents courriers, c'est quand ils vont tous les deux essayer de trouver une femme pour Jean-Marie, parce que Jean-Marie, il n'a pas le temps d'aller voir trouver des femmes, donc il va falloir trouver une femme pour Jean-Marie. Et ils ont des idées bien arrêtées sur la femme et ils veulent quelqu'un, surtout qui soit là pour partager les goûts de Jean-Marie. Au départ, Pierre Fonsin va jouer le rôle d'entremetteur et ce qui est très curieux, c'est qu'il va proposer à Jean-Marie une femme qui s'appelle Jeanne de Pozzi, qui va pas plaire du tout à Jean-Marie, il trouve que cette femme a des goûts bien arrêtés, que trop tranchés. Que ça pourrait pas aller. Mais Pierre Fonsin épousera cette femme plus tard, mais bien longtemps après. Alors, voilà, regardez ce que nous écrit Augustine. Les qualités excellentes et si recherchées généralement de femmes de ménage, sachant faire les provisions, diriger les domestiques, tailler et couper les vêtements, n'offrent pas le moindre attrait à notre philosophe. Il s'ennuierait au contraire profondément avec un esprit voué exclusivement à ses préoccupations. C'est donc, pour nous résumer, une intelligence très cultivée, mais en même temps doublée d'un grand cœur et de qualités morales solides que nous cherchons. Ajoutez que nous ne voudrions pas une correction des traits hors ligne, mais un visage vraiment expressif et gracieux pour l'âge 18 à 20 ans. Pour la question de fortune, nous n'avons aucune espèce de prétention. Nous ne demandons absolument rien à notre idéal que d'être belle et bonne d'un esprit large et droit. Loin de lui désirer de la fortune, nous aimerions mieux qu'elle n'ennuie pas. Qu'elle aime son mari et le rende heureux, c'est la seule dot que nous voulons lui voir apporter. Et ils vont trouver une femme qui est exactement celle qui convient à Jean-Marie. Ça fera un très très bon couple. Heureusement, ils ne vont pas vivre très longtemps
Comment
ensemble.
s'appelle-t-elle, cette poupée?
Alors, elle s'appelait Barbe Marguerite André. Et c'était la fille d'un professeur, d'un collègue d'Alfred. En plus, elle écrira aussi des petits contes, des petites nouvelles. Un opus sera préfacé par Alfred. C'était un personnage aussi intéressant, pas aussi fort qu'Augustine, mais exactement ce qu'il fallait. D'ailleurs, elle va la considérer comme sa fille. Elle sera la dernière. Elles vont vivre toutes les deux un peu en vase clos, puisque après. Alors, ça serait intéressant aussi de vous lire ce que Augustine a fait graver sur sa tombe. Parce qu'à Menton, au cimetière du Trabuquet, vous avez une magnifique tombe,
Magnifique.
et puis l'environnement est sublime, et vous avez vu sur la mer, c'est magnifique. Elle a fait mettre Madame Alfred Fouillé. Après le décès d'Alfred, elle mettait toujours Augustine Alfred
Alfred Fouillé.
Fouillé. Alors, mère de Jean-Marie Guyot et auteur de Francinet, du Tour de la France par deux enfants, etc. Enfant de la France, je vous ai donné le meilleur de mes pensées et de mes sentiments. Il y a une devise que je voudrais voir celle de votre vie entière. Choisir toujours le bien. Dans les heures d'incertitude, comme la vie en a pour tous, ne dites jamais. Quelle résolution est la plus avantageuse? De quel côté sont les honneurs, la fortune et le plaisir? Mais simplement, de quel côté est la justice? Et alors, quand même, du côté du bien serait la souffrance, les périls et le plus petit nombre d'hommes, n'hésitez pas. L'avenir est à la justice et au droit. Le bien est impérissable. Et ça, c'était dans Francinet. Déjà, ça résume toute la philosophie d'Augustine. Et puis aussi, jusqu'au bout, elle a toujours gardé la foi. Myriam Fonsin, qui est une fille de Pierre Fonsin, nostalgique du passé après la guerre de 14, va lui écrire une longue lettre. Et alors, Augustine répond: Vous avez, me dites-vous, parcouru au dattier la correspondance familiale et regretté vivement toutes ces tendresses mortes qui étaient d'un tel prix. Oh, cher enfant, ne leur donnez pas ce nom douloureux. Mortes, elles ne le sont pas. Comment les âmes de l'au-delà auraient-elles perdu le souvenir? Comment la tendresse dont elles vécurent ici-bas se serait-elle éteinte? La nôtre s'est augmentée de leur disparition, et la leur n'existerait pas? Ne le croyez pas. Et lorsque nous irons les rejoindre, nous arriverons vers elles avec ce que nous eûmes de meilleur en ce monde, l'inépuisable besoin de les aimer toujours et d'en être toujours de plus en plus aimée. Cette vieille femme, au bout de sa vie, alors qu'elle avait eu tant de chagrin d'avoir perdu tous ceux qu'elle aimait autour d'elle. Voilà, donc Augustine Tuileries, vraiment une femme exceptionnelle.
Et en effet, je pense qu'on a certainement des questions à vous poser.
Ce qui m'avait frappé quand j'ai lu le Tour de France des deux enfants, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans le cadre d'un travail,
oui.
C'est la correspondance qui existe entre ce livre et Nils Holgersson, oui. Le fabuleux voyage à travers la Suède. C'est un peu le même projet, c'est faire découvrir un pays aux enfants de ce pays à travers un périple, et puis c'est pareil. Nils, il s'amende tout au long du parcours. Lui, c'est un peu un garnement, alors que ce sont des enfants vertueux, mais je voulais savoir s'il y avait un rapport entre les deux.
Entre les deux auteurs, je ne pense pas. Mais par contre, il y a un rapport entre les deux œuvres, en sachant que Nils, c'est après.
C'est postérieur. Oui. Elle s'en est inspirée au moment où ces pays commençaient à faire ce qu'on appelle le roman national dans chacun des pays européens, mais elle était une des premières.
Petite
c'est ça qui...
différence, pour Selma Lagerlöf, c'est une commande de l'État.
Il faut bien voir aussi que Fouillet connaissait la famille Belin, l'éditeur Belin, et qu'on ne peut pas dire que ce soit une vraie commande, mais il y a eu suggestion aimable. D'autant que Fouillet connaissait des membres de la famille Ferry. Donc Belin a cherché à lancer son roman, ses affaires. Il faut dire que c'est le plus gros tirage de la littérature française. Je crois qu'il y a eu
plus
8 millions
d'exemplaires.
C'est le plus gros tirage de l'enseignement français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a deux choses qui sont caractéristiques. On donne la géographie, hein, c'est aussi l'époque de l'Isère Reclus. Donc ces gens se connaissaient entre eux. Monsieur Fouillet était peut-être un peu éloigné, je dirais, de l'enseignement traditionnel. Et il était assez ami et franc-maçon. Hein, Jules Ferry a été enchanté. Elle a été pour lui comme un prototype. J'avais en particulier étudié le choix des grands hommes. Il y a une série de grands hommes choisis. Oui. Il y a les villes où on passe et celles où on passe pas, mais on est pris par la qualité du livre. On gobe tout. C'est assez intéressant de voir le critère. C'est l'époque aussi où on a commencé à faire de l'enseignement technique, ce qui était extrêmement rare. Il n'y en avait pas. C'était le seul livre qui parlait technique.
Agriculture.
La botanique. Alors, elle a connu la famille de Jules Ferrier. Et donc, c'est bien pour ça que ça parle de Saint-Dié. Mais à côté de Saint-Dié, il y avait une vallée de la Bruche qui contenait un pédagogue qui avait été très célèbre parce qu'il avait fait lui-même des livres de botanique d'enfants, qui s'appelait Oberlin, Pasteur Oberlin. Elle a utilisé des dessins d'Oberlin. Si on va à ce musée Oberlin, on revoit les dessins. Il y a aussi un point, c'est que Fouillet, il était un adepte de Jean-Jacques Rousseau. Et elle a, sans aucun scrupule, copié le vicaire savoyard. Il y a deux pages entières du vicaire savoyard. Mais en toute honnêteté. Et puis, chaque fois qu'il y avait Dieu, il a fallu changer. Alors heureusement qu'il y avait la pluie qui tombe. Donc si vous remarquez qu'au lieu de dire mon Dieu, il dit il pleut.
Ou hélas.
Et puis, alors en 1905, Belin, astucieusement, a vendu les deux exemplaires. Jusqu'en 1933, en tout cas, édité constamment, pour les écoles privées catholiques et puis pour l'État. Comme ça, on fait les deux éditions, on est sûr de gagner sur les deux terrains.
Il y a plusieurs articles dans la revue des livres pour enfants et dans les papiers du CRILGE qui étudient les diverses versions du Tour de la France par deux enfants et qui montrent ce qui a été supprimé, ce qui a été rajouté, etc. Alors, c'est un travail un peu de bénédictin. Ça permet de voir que selon les préférences politiques et surtout les gouvernements, à certains moments, on supprime un certain nombre de choses, à d'autres moments, on en rajoute. Et je voulais juste rajouter une chose là, par rapport à ce que vous avez dit sur la comparaison entre Nils Holgersson et puis le Tour de la France par deux enfants. On n'est pas dans la même catégorie. Nils Holgersson, c'est quand même d'abord un roman. D'ailleurs, il y a eu une adaptation française, qui est l'histoire de Jacques Le Pousset et de Clap la Cigogne. Et c'est pareil, c'est Jacques monté sur la cigogne, donc c'est Nils Holgersson. Alors que le Tour de la France par deux enfants, ça lance en quelque sorte toute l'histoire du roman scolaire. C'est la première fois que dans des manuels scolaires, les enfants sont les héros. Et ça va avoir toute une postérité. Il y aura après Bouygues-Guinette, Milhaud, etc., etc. Mais c'est très inventif. Autant il y avait à l'époque des romans dont les enfants étaient les héros, il n'y avait pas de livres scolaires, de manuels scolaires dont les enfants étaient les héros. Et là, c'est vraiment une création.
Le projet est quand même de faire découvrir tout un pays sous tous ses aspects. Oui. Parce que dans Nils, on retrouve l'histoire, la géographie. C'est l'époque où on sanctionne énormément les enfants qui, comme André Julien, se promènent à travers la frontière. Il y a le délit de vagabondage. Et eux, c'est des vagabonds vertueux. Mais parce que ils ont, le projet, c'est de refaire la famille, alors que le vagabond est censé fuir la famille, le petit vagabond. Et puis, ils se mettent tout le temps, Julien André, sous la protection d'un adulte. Ils sont remis de main en main. Et le seul moment où il leur arrive un ennui, c'est quand d'eux-mêmes, ils montent avec un cocher. Enfin, et c'est le seul moment où, de leur propre chef, ils ont été vers un adulte qu'ils ne connaissaient pas. Parce que sinon, un adulte les recommande à un autre adulte, et ainsi de suite.
Et puis, ils ont un petit papier sur eux aussi qui prouve que ce ne sont pas des vagabonds. Et ils partent avec un petit pécule, mais bien sûr, ça ne va pas suffire. Donc, il faudra qu'ils travaillent. Ce sont vraiment deux héros.
Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des ressemblances entre Le Tour de la France par deux enfants et le livre italien Cuore?
Dans la revue des livres pour enfants, il y a... Alors, c'est pas simplement entre Cuore et Le Tour de la France par deux enfants, c'est Le Tour de la France par deux enfants, les débuts du roman scolaire et ce qui existe dans d'autres pays. Cuore est cité, mais pas seulement.
De Patrick Cabanel, ça s'appelle Le roman national dans les livres pour enfants.
Oui, mais le roman national, c'est autre chose que le roman scolaire.
Il a utilisé l'idée d'un roman national. Comment ça s'est passé?
Pour les scolaires.
Bon, c'était le moment ou jamais. Hein. Et au début, Madame Fouillé, étant d'un milieu très pacifiste, vous ne voulez pas le retour de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'est pas du tout question, dans la première édition, d'une revanche quelconque.
Non, c'est...
Après 1905, il y a quelques petites allusions délicates, mais... Alors que les autres romans scolaires qui ont été faits autour de 1900-1914 marquent qu'il y a un enseignement militaire pour les garçons à l'école primaire. Donc le fait qu'elle n'ait pas revendiqué l'Alsace et la Lorraine dans le roman, alors qu'ils partaient de Salzbourg, ça a fait quand même pas...